En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
C'est l'hymne cible à la tête de l'emploi, celui d'un journaliste qui a toujours rêvé de raconter des histoires. Né à Beyrouth en 1946 dans une famille juive libanaise, le problème palestinien et ses conséquences dans la région le propulse en 69 à Paris, où il devient correspondant dans les territoires occupés pour le quotidien français Libération. Alors si je dis qu'il a la tête de l'emploi, c'est parce qu'il a quelque chose de l'homme assis, toujours fou de Beyrouth, vivant des matins parisiens pour mieux écrire un soir à Beyrouth et imaginer les amours cachés d'une Golda Meir pour un amant en Palestine. Tous ces titres de romans ou de nouvelles en disent long, en tout cas, sur son lien ombilical avec le Moyen-Orient. Lien politique et rempli de désirs, à l'instar de ce film qu'il a coécrit avec Yolande Zoberman, « Would you have sex with an Arab ?» Bonjour, Selim Nassib.
Bonjour.
Avant de vous poser la question plus tard, je ne me gênerai pas. Est-ce que vous feriez l'amour avec une arabe ? Petit retour en arrière sur un moment choc de votre vie. C'est lorsqu'Israël déclenche ce qu'on a appelé une attaque préventive contre ses voisins arabes. C'est la fameuse guerre des six jours au cours de laquelle l'État hébreu va tripler sa superficie. L'Égypte y perd la bande de Gaza et la péninsule du Sinaï. La Syrie est amputée du plateau du Golan. La Jordanie, de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Bref, à la télévision française, on suit à ce moment-là les traits tirés du président égyptien Nasser.
Il y a tout juste trois semaines, Nasser lançait à la face du monde des propos pleins d'assurance. Depuis quelques jours, il n'est plus apparu en public. La défaite reconnue, il doit s'adresser au peuple et s'expliquer.
Je me souviens qu'un caméraman pleurait en même temps qu'il filmait. Le chef d'équipe des caméramans a dû lui enlever sa caméra pour que nous puissions continuer l'émission.
Nasser démissionne. Il a à peine terminé son discours que des milliers, puis des centaines de milliers d'Égyptiens sortent dans les rues. En larmes, ils crient, ils le supplient de rester.
Mes chers frères, nous avons toujours eu l'habitude, en temps de victoire et de crise, dans les bons moments et les moments amers, de nous retrouver et de parler en toute franchise. C'était donc les mots d'un Gamal Abdel Nasser à la télévision égyptienne le 10 juin 67. Et vous, Selim Nassib, vous aviez 19 ans, vous étiez à Beyrouth. Pourquoi est-ce que vous vouliez réentendre ces mots de défaite du président égyptien ?
C'est vrai que c'était un moment très particulier. C'est-à-dire que j'avais découvert l'engagement politique, la cause palestinienne, comme on disait à l'époque, peut-être un an plus tôt. Avant, j'étais vraiment dans un cocon familial, une famille juive. Et donc, l'engagement était très très récent. Il y a la guerre de 67, avec des sentiments mitigés, parce que on avait l'impression, comme tout le monde, que le petit Israël était en danger par rapport à ses voisins arabes. Et donc, trois jours après, le 10, justement, on ne savait pas encore l'étendue de la défaite. Et donc, j'étais avec des camarades, des gens avec qui nous faisions de l'action poétique, sur la terrasse d'un ami qui habitait à Beyrouth, et on écoute la télé en noir et blanc, et là, on a Nasser qui dit ça. C'est-à-dire, nous avons pris l'habitude de nous asseoir ensemble, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et là, on comprend qu'il démissionne, que la défaite est considérable, et le reporter là qu'on a entendu dit des centaines de milliers descendent dans la rue, eh bien je suis descendu dans la rue avec ses amis et on s'est retrouvé en 10 minutes. C'était comme des petits ruisseaux qui alimentaient un fleuve. On s'est trouvé en train de rouler dans les avenues de Beyrouth, en train de hurler comme tout le monde, jusqu'au moment où soudain un autre ami, un autre camarade arrive en courant vers nous et dit la manifestation va passer devant le quartier juif et ils vont tous saccager. Et donc là il y a un moment de suspension, comme ça, de stupeur. Et on fait un cordon humain, on se prend par les coudes, et on bouche la rue qui conduit vers le quartier juif, et on voit la foule qui nous passe devant. Personne n'a essayé de rentrer dans ce quartier. Mais du coup, cette seconde a été juste le, comment dire, l'incarnation de la position dans laquelle j'étais, c'est-à-dire à la fois en train, en train de manifester et soudain en train de changer pour essayer de protéger ce qui pouvait l'être.
Mais alors, la défaite des Arabes, vous, juifs libanais, vous la vivez comment?
Eh ben, c'est-à-dire que c'était une catastrophe à tout point de vue. On ne se rend pas compte aujourd'hui à quel point c'était une catastrophe pour le monde arabe. Et or, moi, à ce moment-là de ma vie, j'étais absolument solidaire avec cette cause. Peut-être que j'étais intérieurement soulagé du fait que Israël n'était pas en danger, parce qu'il y avait une bonne partie de la famille de ma mère qui était. Donc, tout ça était coexistait, disons. Mais la messe étant dite, c'est-à-dire la défaite étant consumée, il n'y avait plus tellement d'hésitation à avoir. C'était une catastrophe pour les Arabes, Israël était triomphant, l'occupation était le drame palestinien se prolongeait par l'occupation d'autres pays arabes. Bref, l'identification avec la cause arabe était à peu près parfaite.
Oui. Pour qu'on comprenne bien, vous êtes né donc à Beyrouth dans cette famille juive libanaise d'origine syrienne.
Oui, effectivement. Voilà. Comme beaucoup de juifs libanais viennent de Syrie.
Vous êtes né 2 ans avant la création de l'État hébreu créé en 48. C'est-à-dire que votre famille, elle, n'a pas senti le besoin de faire ce qu'on appelle l'aliyah, le retour en Israël. Elle se sentait chez elle au Liban?
Pas du tout. Pas du tout, parce que aussi bien mon père qui est né à Damas que ma mère qui est née à Alep sont venus au Liban pour des raisons économiques, parce que c'était le Liban était attirant, c'était un pays de vraiment attirant, relativement tolérant, dirigé par des chrétiens.
La Suisse du monde arabe,
oui, c'était un peu comme ça à l'époque, et donc ils y sont venus comme ça, ils se sont mariés, ils sont venus là, ils ont eu leurs enfants là, ils étaient absolument pas tentés d'aller en Israël. Absolument pas. C'est-à-dire que la petite, disons, construction mentale de la famille, c'est que on vient de Syrie, mais on n'est pas de Syrie. On est au Liban, mais on est étranger au Liban, puisqu'on n'est même pas libanais. On pourrait aller en Israël, parce que Israël, c'est le pays des Juifs, mais pour une raison un peu mystérieuse, ce n'est pas pour nous. Nous, notre avenir, c'est Paris.
C'était tout ça, en vivant, vous le dites, comme un petit Juif jusqu'à l'âge de 16 ans.
Oui, absolument. Oui. Oui, un peu en marge de la communauté quand même, parce que ma mère croyait qu'on était une famille d'intellectuels et que donc l'arabe, comme l'hébreu, n'était pas vraiment pour nous, c'était le français, la littérature. Son père lisait Le Temps, qui est l'ancêtre du Monde, à Alep, qui recevait par le bateau. Bon, oui. C'est toute une, comme ça, une fantasmagorie familiale où vraiment la tentation israélienne n'était pas là. Pour mon père, peut-être plus que pour ma mère, mais finalement, non.
En tout cas, ça devient très compliqué, j'imagine, pour vous et votre famille, dès la guerre des six jours, car l'amalgame entre juifs et sionistes se fait immédiatement.
Oui, pourtant, enfin, ça se fait pas immédiatement. Moi, j'ai continué à militer après 67. À l'époque, il n'y avait pas encore de mouvement palestinien, mais ils sont apparus un peu plus tard, peut-être en 68, par là. Et la logique de cet engagement était de prendre contact avec eux. Eux, ils étaient ravis parce qu'ils pouvaient montrer qu'il y avait des juifs qui étaient passionnistes, qui était quand même une belle démonstration. Mais du coup, on était un peu les faire-valoir d'une cause. Mais
vous étiez pris en otage, en fait.
Non, pas pris en otage, parce que le fait même que Israël se soit créé en chassant des Palestiniens de chez eux, ce fait-là, ce n'était pas un fait à discuter. C'est-à-dire, ça doit être réparé. C'est simple. Le problème a été créé là, il faut qu'il soit réparé là. Réparé, ça veut dire que, par exemple, qu'il donne des compensations, qu'il fasse une solution de 2 États, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Mais ça, tant que ce problème est là, il empoisonne la région. Ça n'a pas varié pour moi, du début jusqu'à aujourd'hui.
Alors la voix de Nasser qui vient de résonner incarnait à ce moment-là le rêve d'unité arabe. Je ne sais pas si c'était finalement un petit bout de votre rêve à vous.
Ah non, s'en foutait pas.
Ah oui, complètement.
Ah oui, non, voilà. Bon, ça va, c'est que les Arabes sont... Bon, c'est très bien. Vraiment, ce qui faisait mal au cœur, c'était cette histoire de Palestiniens. Parce qu'on vivait à 150 km de la frontière israélienne. Entre Beyrouth et la frontière, il y avait je ne sais combien de camps de réfugiés palestiniens. On vivait à côté d'eux, on ne le savait pas. Et une fois qu'on l'a découvert, on ne peut plus l'oublier. C'est pourquoi ils sont là.
Alors une autre voix, égyptienne aussi, Hamid Nasser d'ailleurs, incomparable voix, 14 000 vibrations par seconde, je crois que c'est ce que la Calas disait d'elle, va nous ébouriffer les tympans pendant une petite minute. Il s'agit d'Unkeltum et son fameux quart de ton en sol majeur.
«
Alors, qu'est-ce que vous ressentez, Selim Nassib, quand vous entendez cette chanson interprétée par Oum Kalthoum, chanson qui s'appelle
Ranili, c'est-à-dire chante pour moi. Voilà. Et ben, d'abord, ça ressemble pas du tout aux chansons d'Oum Kalthoum, parce que les chansons d'Oum Kalthoum, en général, c'est beaucoup plus plaintif, c'est la douleur et tout ça, hein, l'amour déçu, l'amour impossible. Alors que là, c'est une chanson joyeuse où il dit chante pour moi et prends mes yeux. Et c'est en fait une chanson de film, un film dans lequel elle a joué, qui s'appelle Salama, où elle incarne une paysanne un peu bédouine, qui a une voix d'or. Et en fait, j'aimais pas du tout Oum Kalthoum. Toute mon enfance, je considérais que vraiment Oum Kalthoum, c'était arabe. Et il y avait quelque chose de méprisant dans le fait que c'était arabe, pour moi. D'ailleurs, hébreu, c'était pas beaucoup mieux. J'étais en classe dernier en arabe et dernier en hébreu. Mes premiers en français. C'est toujours cette même fantasmagorie familiale. Donc c'était arabe et mon père adorait ça. Mon père est beaucoup plus arabophone. Et donc tous les premiers jeudis du mois, il allumait sa radio et il collait son oreille dessus et il entendait ça pendant que nous, les enfants, on écoutait plutôt les Beatles et bientôt Bob Dylan.
Pourquoi est-ce que vous restez là ?
Là. Ouais. Come this side. You see? Dylan. This way. Right. You see?
Yes.
You see what's Israel doing? You see?
He come.
Ya Sabhi! Maina Sabhi!
Journal intime.
Alors je dirais même dans votre cas, journal très intime, Selim Nassib, car vous arrivez en France en 69, vous collaborez assez vite à plusieurs journaux, notamment à Libération, le quotidien français, pour lequel vous êtes le correspondant dans les territoires occupés, et vous couvrez en particulier l'intervention militaire israélienne au Liban en 82, c'est-à-dire que vous vivez dans votre chair le siège de Beyrouth, votre ville natale. Vous me corrigez après, où habitent à ce moment-là 200 000 civils et où siège l'OLP, l'Organisation de Libération Palestinienne. C'est quoi un journaliste dans ce contexte de guerre ?
D'abord, bon, je dois rectifier un peu les choses, parce que Libération a été créée en 73, 74. J'étais un peu ami avec eux, mais en fait, j'ai pas travaillé pour eux avant 81. Mais j'étais ami avec Serge Julie,
directeur de
Libération. Et puis en 82, quand l'armée israélienne envahit le Liban, par hasard, ce jour-là, on est en train de déjeuner ensemble, et par hasard, il n'y avait personne qui envoyait. C'est simple. Et donc, je vais là-bas, au fond, comme journaliste, mais simplement la situation me paraissait intolérable, c'est-à-dire que l'armée israélienne entrait au Liban, on ne savait pas encore qu'il y aurait le siège de Beyrouth, pour chasser encore une fois les Palestiniens, qu'elle avait déjà chassé une première fois. Et je trouvais que dans ces conditions, ma place était beaucoup plus parmi les assiégés.
Mmh.
Voilà. Et donc j'ai été à Beyrouth très délibérément. Et le piège s'est refermé, l'armée israélienne a bloqué la ville, et elle l'a bloquée pendant 3 mois. Et du coup, ce que j'écrivais dans Libération, à l'époque, était une scène de théâtre presque romantique, enfin très compréhensible. Un homme dans une ville avec les méchants autour en train de raconter non pas la grande politique mais la vie quotidienne d'une ville assiégée qu'on veut briser, qu'on veut casser pour chasser la direction politique de ces Palestiniens-là dont on veut se débarrasser. La situation était trop belle pour être vraie, c'est-à-dire que les Palestiniens, bon nombre de Libanais en avaient par-dessus la tête de leur comportement, du fait qu'ils étaient un État dans l'État, du fait qu'ils se servaient sans vergogne, du fait qu'ils bousculaient les pouvoirs locaux, qu'ils méprisaient l'État libanais. Tout ça existait et c'était la pure vérité. Mais soudain, par la grâce de l'intervention israélienne, on avait une situation qui avait l'air presque, vraiment une situation morale de pièce de théâtre, de pauvres assiégés qui veulent être chassés par là. Ce qui était vrai aussi.
Oui.
C'est ça la réalité. Pourquoi la réalité est toujours beaucoup plus intelligente. C'est que tout existe à la fois.
Et c'est ce qui vous a fait écrire ce texte absolument incroyable qui s'appelle « Un cadavre encombrant ». Non, c'est pas ça.
Pas du tout.
Parce que ça, c'était en 78.
Ça, c'était en 78. C'était plutôt. C'était au début de la guerre du Liban. Et là, non seulement le Liban était en train de sombrer dans une guerre civile, mais chacun disait c'est pas ma faute, c'est pas moi. On voyait le Liban s'enfoncer dans la guerre civile, et d'une certaine façon, c'était la faute de personne.
Alors vous écrivez un poème, manifeste, je sais pas exactement comment il faut le qualifier, sur un air de Bob Dylan.
Oui, c'est-à-dire que Bob Dylan avait écrit une chanson qui disait qu'il y a un boxeur qui s'appelait Davy Moore, qui a été tué pendant un combat, et tout le monde a dit, l'entraîneur a dit, c'est pas moi, l'autre boxeur a dit, mais moi j'ai fait comme mon boulot, le troisième a dit, oui mais... Donc c'était la faute de personne, et le refrain de Bob Dylan, c'est Who killed Davy Moore, qui a tué Davy Moore.
Et voilà ce que ça donne sous votre plume.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit la France. J'ai simplement divisé le pays, de sorte qu'il s'y trouve tout juste un peu moins de musulmans que de chrétiens.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit l'Amérique, c'est simplement la logique de la politique d'épargner les équilibres les plus larges aux intérêts considérables en trouvant un exutoire local à la chaleur des sangs.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit Israël, je me suis simplement fait de la place et quand par enchantement sont partis quelques indigènes en longue colonne sur les routes vers le sud et vers l'est et aussi vers le nord.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit le gouvernement. Entre tous, je suis le plus innocent puisque je n'ai rien fait. Rien. Absolument rien. Sinon, tout simplement, de laisser faire les hommes et passer les marchandises.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit la Syrie. J'ai simplement remis de l'ordre en bombardant les autres afin qu'ils arrêtent de se bombarder entre eux.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas moi, dit le Palestinien. Ils m'ont chassé de ma terre, parqué comme du bétail, et fait commerce de mon malheur. Il a bien fallu que je m'arrange avec armes et bagages pour essayer de rentrer chez moi.
Qui a tué le Liban ?
Ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Répète en cœur les horizons. D'ailleurs, c'est une mort naturelle, une maladie de jeunesse, un grand malheur.
Alors c'est incroyable que vous puissiez publier ça en 78
Je crois que c'est Libération.
Libération. Sous un pseudo, hein, vous vous appelez à ce moment-là Selim Turquier.
C'est pas mon pseudo, c'est mon vrai nom.
Ah, c'est votre vrai nom.
Mais oui. J'avais pas encore inventé l'autre.
D'accord.
J'ai pris Selim Nassim parce que c'était une traduction approximative de Lucky Luke.
Alors là, on n'est pas dans les pieds nickelés, ni dans Lucky Luke. Hein. Vous êtes d'accord de dire que ce n'est pas un papier de journaliste, ce que vous faites, c'est un manifeste poétique.
C'est-à-dire, que faisaient les journalistes ? Ils arrivaient, ils descendaient dans un hôtel et ils couvraient l'actualité. Moi, je ne faisais pas ça. J'habitais là-bas chez un ami. Les gens que je rencontrais un matin de combat, l'autostoppeur palestinien qui s'endormait derrière parce qu'il était trop fatigué, je racontais ça. Je racontais rien d'autre. Et comme je comprenais l'arabe, je voyais ce qu'il sentait et donc je transmettais ça. Et du coup, c'était pas tellement du journalisme que soudain, un coup de projecteur sur comment sentent les gens quand ils sont de l'autre côté.
On va reprendre le fil de cette conversation dans 3 minutes après le point sur le monde et puis on se retrouve Selim Nassib avec cette question qui pourrait nous empêcher de dormir peut-être. Would you have sex with an Arab?